femme qui a la forme sévère de la drépanocytose, faire le choix de devenir maman est un choix qui peut être teinté d'angoisse. Est-ce possible d'être drépanocytaire et enceinte? Quel sera mon parcours de grossesse? On ne sait pas comment va réagir son corps drépanocytaire face à la grossesse. Et on sait aussi qu'on transmet le trait drépanocytaire à son enfant. Grâce aux avancées médicales, de plus en plus de femmes drépanocytaires peuvent se permettre ce choix, le choix de devenir maman, et elles vont s'engager dans un parcours de grossesse complexe sous haute surveillance médicale.
C'est un de mes mentors qui disait « la drépanocytose aggrave la grossesse et la grossesse aggrave la drépanocytose ». Et c'est vrai qu'il faut être particulièrement vigilant pendant cette période.
Notre invité pour cet épisode exceptionnel est le docteur Laure Joseph de l'hôpital Necker à Paris. Le docteur Laure Joseph est un médecin spécialisé dans la prise en charge des patients drépanocytaires thalassémiques et elle suit aussi les femmes enceintes qui sont drépanocytaires. Dans cet épisode, nous vous parlons de la grossesse chez la femme drépanocytaire. C'est une grossesse pathologique. Quelles sont les complications qu'on essaye d'éviter? Quelle est la prise en charge qu'on met en place? Quel est le mode d'accouchement recommandé? La question de l'allaitement, la place capitale du conjoint. Suivre une patiente drépanocytaire enceinte, c'est mettre en place un programme sur mesure pour accompagner cette patiente dans son parcours de grossesse. Je suis Emmanuelle Chotfona et bienvenue à Drépaland, le premier podcast qui vous parle de la drépanocytose. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles à ce podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix et partagez-le autour de vous. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Très bonne écoute. Bonjour docteur Laure Joseph.
Bonjour.
Bienvenue à Drépaland.
Je suis très heureuse d'être à Drépaland.
Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui pour parler de la grossesse, mais de la grossesse chez les personnes drépanocytaires. Et on parle ici des personnes qui ont donc une hémoglobine de type SS, donc la forme la plus sévère de la drépanocytose. Et au cours de cet épisode, on va voir comment est-ce qu'on peut conjuguer grossesse et drépanocytose qui, jusqu'à très peu de temps, finalement, c'était pas forcément accessible ou alors ça restait quelque chose d'assez tabou. Donc vous, en tant que praticienne, vous suivez des drépanocytaires et parmi ces drépanocytaires, vous avez notamment des femmes enceintes que vous suivez.
Oui, tout à fait. Alors à Necker, on est centre de référence drépanocytose et grossesse. Donc drépanocytose pour les patients drépanocytaires chroniques et grossesse, donc avec suivi à la maternité conjointe avec une gynéco-obstétricienne formée. Et donc on a à peu près une quarantaine de femmes enceintes drépanocytaires suivies par an ici à l'hôpital Necker.
Parmi vos patientes que vous suivez, à quel moment est-ce qu'on va poser le sujet de la grossesse?
Alors, dans l'idéal, on essaye de le poser avant. Si c'est des patientes qu'on suit depuis l'adolescence, on va dire au passage transition adulte-pédiatrie vers l'âge de 18 ans, c'est des choses qu'on va aborder en amont parce que ça fait partie des rappels de la maladie, la transmission génétique, donc forcément la filiation, c'est hyper important. Donc c'est des choses qu'on va essayer d'anticiper pour expliquer que c'est possible d'une part, mais que ça se prépare avec le dépistage du conjoint pour savoir s'il y a un risque d'avoir un enfant malade et la préparation pour elle en tant que patiente pour être sûre que ça puisse se faire dans de bonnes conditions. Ensuite, on peut m'adresser des patientes déjà enceintes. Dans ce cas-là, on ne l'a pas forcément abordé avec elle directement, mais ça a pu être abordé par le médecin référent. Et en général, on essaye de les voir au cours du premier trimestre, donc assez tôt pendant la grossesse pour anticiper le suivi, le type de maternité et la prise en charge spécifique éventuelle si, par exemple, il y a besoin de transfuser la patiente.
Parce qu'en effet, on parle d'une grossesse dite pathologique de par la condition en fait de la maman qui est drépanocytaire. Qu'est-ce qui va être mis en place pour accompagner cette grossesse dans un contexte drépanocytaire?
J'insiste parce que je pense que c'est important. En premier lieu, vraiment, on parle du bébé et du risque drépanocytaire. Donc, si on ne connaît pas la personne, on va prescrire un dépistage pour le conjoint. Parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Et plus on l'anticipe tôt dans la grossesse, plus on peut proposer le diagnostic prénatal avec soit une biopsie trophoblaste, soit de l'amniocentèse, en vue de préparer les parents s'il y a une possibilité d'enfant atteint par un syndrome drépanocytaire majeur. Ensuite, effectivement, bien sûr, on reprend tous les antécédents de la patiente et on va essayer d'anticiper qu'est-ce qui peut arriver pendant cette grossesse. Donc, effectivement, déjà, en premier lieu, on va reprendre les traitements déjà pris par la patiente pour savoir s'il y a des traitements potentiellement dangereux pour le bébé qu'il faudrait arrêter pendant la grossesse et mettre en place d'autres médicaments ou d'autres traitements pour les remplacer. Donc, par exemple, on sait qu'on ne doit pas prendre d'anti-inflammatoires pendant la grossesse, donc c'est des choses pour lesquelles on va informer la patiente. Et effectivement, par rapport à l'hydroxyurée, soit la patiente l'a arrêté en amont, en accord avec son médecin drépanocytologue, et elle ne le prend pas au moment de la grossesse, donc ce n'est pas trop une problématique urgente, soit elle le prend au moment du diagnostic de grossesse et normalement, on va l'arrêter. Dans la majorité des cas, il y a quelques cas rares où on peut le poursuivre, mais la majorité des cas, on l'arrête. Et quand on arrête l'hydroxyurée, ce traitement ayant pour but de stabiliser la maladie, on va être obligé d'essayer de le remplacer. Et le plus souvent, on le remplace par des transfusions. Alors c'est pareil, ce n'est pas systématique, c'est au cas par cas. Il y a des patientes qui ne peuvent pas avoir de transfusion, d'autres patientes qui parfois, exceptionnellement, ne vont pas en avoir besoin. Mais en général, quand on a l'hydroxyurée et l'hydroxycarbamide avant, on va être amené le plus souvent à être transfusé pendant la grossesse.
C'est ce qu'on disait, c'est que la drépanocytose ne s'exprime pas en termes de sévérité chez les personnes de la même façon. Là, c'est une prise en charge sur mesure que vous allez mettre
avec
en place.
Avec certaines recommandations qui existent de manière internationale et nationale, mais effectivement, c'est à chaque fois au cas par cas.
Est-ce qu'il y a des patientes pour lesquelles on va conseiller à cette patiente de retarder le projet de grossesse ou alors même d'envisager de ne pas l'avoir ? Est-ce que ça arrive, ce genre de situation ?
Alors, interdire une grossesse, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Enfin, je pense pas que ce soit le rôle d'un médecin d'interdire formellement la grossesse. C'est compliqué de dire à quelqu'un « je vous interdis d'avoir un enfant ». Je pense que c'est extrêmement lourd. Aujourd'hui, ce qu'on essaye, c'est de prévenir des risques. J'ai en tête une patiente extrêmement complexe dont je m'occupe, qui a envie d'avoir un enfant. Donc, effectivement, si elle envisage cette grossesse, ça va être extrêmement compliqué. Mais je ne lui interdis pas. Je la préviens, par contre, que le risque est très important. Et pour elle, et pour le bébé. Ensuite, chaque patient est libre de décider s'il a envie de s'engager dans ce projet ou pas. Donc nous, on est là pour des conseils, mais je pense qu'aujourd'hui, cette vision un peu paternaliste de la médecine a un peu changé, évolué avec le temps, et que c'est exceptionnel de devoir dire à quelqu'un « je vous interdis la grossesse ». Je pense que c'est même pas très éthique, quelque part.
Chez les autres patientes, dans la majorité des cas, quelles sont les complications qu'on va essayer d'anticiper ?
Donc, on va anticiper plusieurs choses. L'aggravation de la maladie, parce que c'est vrai que pendant la grossesse, il y a souvent plus de crises vaso-occlusives chez les patients drépanocytaires. C'est un de mes mentors qui disait la drépanocytose aggrave la grossesse et la grossesse aggrave la drépanocytose. Et c'est vrai qu'il faut être particulièrement vigilant pendant cette période, d'où le suivi qui va être rapproché mensuel chez les patients drépanocytaires au cours de la grossesse, mensuel par le médecin drépanocytologue et par les gynéco-obstétriciens à partir du deuxième trimestre de grossesse. Et donc, on va anticiper les problématiques donc liées à la maladie et liées à la grossesse, donc qui vont être, par exemple, la prééclampsie principalement.
La prééclampsie, c'est un mot qu'on entend souvent, mais concrètement, de quoi s'agit-il ?
Alors, la prééclampsie ne peut pas exister au début de grossesse. Ça apparaît au-delà du deuxième trimestre. Et donc, cette complication, elle va entraîner principalement une augmentation de la tension artérielle, l'apparition d'œdèmes, de surcharge en eau au niveau des membres inférieurs et l'apparition de protéines dans les urines. Alors ensuite, il peut y avoir un emballement avec d'autres complications plus sévères, mais c'est comme ça qu'on le dépiste et c'est d'ailleurs comme ça, pour ça, qu'on fait la mesure de la tension à chaque consultation. On regarde les jambes de la patiente et on va faire un contrôle des urines, soit chez le drépanocytologue, soit chez le gynécologue.
C'est aussi éduquer la patiente à reconnaître ces signes-là parce que finalement, quand on est enceinte, vérifier si ses jambes n'ont pas gonflé, être à l'écoute un peu de son corps vis-à-vis de la pression, c'est quelque chose vers lequel vous accompagnez vos patientes et vous les sensibilisez.
Effectivement, c'est important d'en parler, de ces signes d'alerte. Et en général, les patientes sont plutôt informées. Après, effectivement, je pense que c'est quelque chose sur lequel on a à travailler aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup des signes de crise, les signes d'infection urinaire. On alerte beaucoup sur les pertes de sang anormales ou tous symptômes plus vraiment obstétriques. Mais on est un peu moins sur cette prééclampsie. Et je pense qu'on a des progrès à faire actuellement pour sensibiliser les patientes drépanocytaires parce que c'est 10% des grossesses des patientes sévères pour lesquelles il va y avoir possibilité d'apparition d'une éclampsie. Donc, ce n'est pas rien. Et pour le prévenir, on a des moyens. Les obstétriciennes ou obstétriciens vont interroger les patientes au tout début de grossesse pour essayer d'établir s'il y a un risque encore plus important d'éclampsie par rapport à la population générale. Donc, on sait qu'il y a la drépanocytose, mais il y a d'autres facteurs associés. Et en fonction de ce score, ils vont décider s'il faut mettre de l'aspégique, de l'aspirine à faible dose pour améliorer cette mise en place du placenta au niveau de l'utérus et donc limiter ce risque que de prééclampsie.
Donc, risque de 10%, vous dites, qui est quand même assez élevé, parce que dans la population classique, on est à quoi? On est à 1%,
2%? Oui, mais voilà, c'est ça, exactement. Donc, attention, les 10%, c'est chez les patientes dites sévères, c'est-à-dire qui ont soit de l'hydroxyurée, soit un programme transfusionnel. Chez les patientes moins sévères, qui regroupent d'autres génotypes dans les études, donc pas seulement les SS, mais aussi des SCS, bêta plus, on est plutôt dans les alentours de 5-6%, mais ce qui reste un risque élevé par rapport à la population générale, tout à fait.
En autre risque, vous m'aviez également parlé, lorsqu'on préparait l'épisode, de la cholestase gravidique.
La cholestase, c'est ce qui va toucher le foie. Donc, c'est des anomalies qui vont principalement se manifester sur le plan biologique, au niveau de la prise de sang. C'est pour ça qu'on fait un bilan hépatique chaque mois. Et c'est une complication qui va apparaître, comme la prééclampsie, à partir du deuxième trimestre de grossesse. Avant, on ne le voit pas. Et ça va se manifester parfois par... La cholestase, ça peut entraîner une augmentation de ce qu'on appelle la bilirubine, qui est un pigment qu'on retrouve dans le sang qui explique la coloration jaune des yeux. Et ça va avoir comme conséquence, quand elle est vraiment plus importante dans le sang, d'entraîner ce qu'on appelle un prurite. C'est-à-dire ça donne envie de se gratter tout le temps. C'est quelque chose qui va nous alerter, quelqu'un qui a envie de se gratter de manière diffuse, en dehors de la peau sèche, hein, qu'on peut voir aussi dans la grossesse. Ou en fin de grossesse, on va s'alarmer, on va regarder le foie et on va voir si c'est lié à cette cholestase, qui peut être très embêtante parce que ça peut entraîner d'autres complications et faire qu'on déclenche plutôt la césarienne ou l'accouchement chez les patients. Donc, c'est quelque chose pour lequel il faut être vigilant également.
Sur ces complications-là, elles commencent à se manifester au deuxième trimestre. Le deuxième trimestre, dans la population classique, c'est plutôt le trimestre du répit. Et là, en fait, chez les drépanocytaires, c'est là où on entre dans le dur, en fait, en quelque sorte.
Alors, on entre dans le dur, dans la surveillance, mais souvent, c'est un peu comme la population générale, il y a un petit peu une pause pendant ce deuxième trimestre en général, c'est-à-dire les patientes ont plus les nausées, les vomissements, la grande fatigue. Souvent, il y a beaucoup de crises au premier trimestre et le deuxième trimestre, il y a une petite pause et à partir de la moitié du deuxième trimestre, il y a de nouveau cette grande fatigue parce qu'il y a une croissance fœtale importante qui requiert beaucoup d'énergie pour la maman. Effectivement, la prééclampsie, la cholestase ou d'autres complications qui peuvent arriver, qui vont compliquer les choses, mais il y a quand même une petite période un peu de repos, malgré tout, si on peut dire.
Dans la croissance en fait, de ce bébé qu'on va suivre, qu'est-ce qu'on va craindre en fait, chez une femme drépanocytaire?
Alors, on va craindre plusieurs choses. On va craindre parfois le retard de croissance. Donc, dans ces cas-là, il faut savoir que nous, dans la drépanocytose, on fait une première échographie, deuxième échographie, troisième échographie, comme pour toutes les patientes, et qu'on va compléter par une échographie de croissance après la troisième échographie, à peu près 15 jours, 3 semaines après, pour vérifier que la croissance du bébé se fait bien, parce qu'on sait d'expérience que dans cette pathologie maternelle, il peut y avoir un ralentissement de la croissance à ce moment-là.
Qui est dû à quoi, du coup ?
Qui est dû à des, on pense, des anomalies un peu placentaires, des anomalies de perfusion au niveau ombilical. Et c'est pour ça aussi qu'on fait des domplaires ombilicaux. Alors, on le fait chez toutes les femmes, mais on est d'autant plus vigilant chez les patientes drépanocytaires.
D'accord, c'est-à-dire le débit de sang attendu. Exactement. Qui va vers le bébé,
oui,
n'est pas celui qu'on attend.
Qu'on pourrait attendre.
Il a moins de nutriments, en fait, finalement.
Exactement, donc il grandit moins bien.
Donc là, vous nous avez donné les différentes étapes du suivi de cette grossesse pathologique. Maintenant, quelles sont les thérapies qui peuvent être mise en place durant la grossesse si jamais finalement ça ne se passe pas comme on le souhaite. Tout à l'heure, vous avez parlé des transfusions qui peuvent être conduites, exceptionnellement de l'hydroxyurée. Y a-t-il d'autres éléments que vous avez en réserve?
Alors, il y a un peu l'érythropoïétine, donc un agent stimulateur de la production de globules rouges, qu'on utilise quand même de manière très précautionneuse chez les drépanocytaires parce que ça entraîne une augmentation de la production des globules rouges, mais des globules rouges malades qui contiennent de l'hémoglobine S. Donc, c'est quelque chose pour lequel on est parfois amené à utiliser chez les patients qui ont des contre-indications transfusionnelles, qu'on ne peut pas transfuser, qui ont une hémoglobine basse, et pour lesquelles on pense que même si on entraîne une augmentation de ce chiffre d'hémoglobine, ça ne va pas être suffisant pour entraîner des crises, une hyperviscosité avec des symptômes liés à la maladie. Ça marche moyennement, mais ça peut être utilisé chez certaines personnes pour lesquelles on n'a pas d'autres alternatives, et dans tous les cas pour des patientes qui ont des hémoglobines basses.
Cette maman donc drépanocytaire qui est enceinte, comment va se passer la préparation à l'accouchement? Parce qu'on sait bien que dans le cursus classique, on commence à prendre des cours de préparation à l'accouchement. Si on envisage un accouchement par voie basse, est-ce que finalement elle va s'intégrer dans ce type de cursus ou est-ce que de facto, de par sa pathologie, on va lui conseiller une voie d'accouchement spécifique?
Alors, tout dépend des patients et de la sévérité de l'atteinte, mais assez tôt, selon certaines complications, on peut déjà prévoir s'il va y avoir une césarienne ou pas. Alors, on sait que globalement, en France, c'est 40% de césariennes, tout syndrome drépanocytaire mélangé. Donc, c'est quand même beaucoup, hein, 40%. C'est mieux qu'avant, parce qu'avant, c'est vrai que c'était parfois même césarienne obligatoire quand on savait que c'était une personne drépanocytaire. Hein. Ça fait longtemps que c'est plus comme ça, mais voilà, ça évolue tout doucement. Donc, on est à 40% avec une proportion qui va varier selon la sévérité de la maladie et en fonction des atteintes organiques. Par exemple, une vasculopathie cérébrale, des antécédents d'AVC avec des anévrismes ou ce qu'on appelle un moya-moya, avec, c'est-à-dire un réseau au niveau cérébral fragile qui peut potentiellement entraîner des hémorragies quand il y a une augmentation de la pression artérielle, on va d'emblée orienter vers une césarienne parce qu'on ne va pas vouloir les efforts de poussée qui peuvent entraîner une augmentation de cette pression artérielle. C'est pareil pour les rétinopathies proliférantes, c'est-à-dire quand il y a une atteinte au niveau des yeux qui n'est pas bien contrôlée avec des indications de laser qu'on ne peut pas faire pendant la grossesse. On peut le faire pendant le premier trimestre, puis ensuite on ne peut plus. Dans ces cas-là, on va pareil contre-indiquer la voie basse. Ça peut être également contre-indiqué lorsqu'on a une atteinte ostéo-articulaire de type ostéonécrose de hanche évolutive, c'est-à-dire si on a des douleurs et qu'on ne peut pas tenir la position sur les étriers. Parce que si on a mal pendant et que c'est impossible parce qu'on n'arrive pas à ouvrir les jambes suffisamment, eh ben, ce n'est pas possible de l'envisager. Donc, dans ces cas-là, césarienne d'emblée. Et ensuite, il va y avoir d'autres causes, mais qu'on ne va pas connaître dès le départ. Donc, pour le coup, la préparation à l'accouchement peut avoir lieu comme pour tout le monde. Et finalement, on fait une césarienne s'il y a une indication de césarienne en urgence. Donc, toute complication obstétricale qui ne peut pas être prédite par avance. Mais sinon, hormis ces complications où on sait dès le départ dire c'est une césarienne, on va dire aux patientes qu'elles peuvent accoucher par voie basse, mais le bémol, ça va être pour les formes majeures type SS et S-bêta 0, c'est qu'on va privilégier les déclenchements. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir avoir une mise en route du travail de manière naturelle. On va privilégier le déclenchement pour éviter en fait, toutes les crises vaso-occlusives liées au stress de la douleur, à une mise en place de péridurale un peu plus tardive. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre centre, mais dans beaucoup de centres, on privilégie le déclenchement, notamment par ballonnet, qui est un déclenchement mécanique, qui ne va pas être par des médicaments ou des hormones.
Pourquoi la préférence du ballonnet?
Pour éviter les crises vaso-occlusives aussi, parce que certaines hormones, certains produits utilisés pour le déclenchement peuvent entraîner malgré tout des crises vaso-occlusives.
Et donc le ballonnet, c'est comme un petit
ballon? Alors on appelle ça au ballonnet, mais en fait j'ai appris il y a peu, c'est une sonde vésicale, donc une sonde urinaire, qui va être gonflée à un certain volume, qui va être gonflée au niveau du col de l'utérus. Et en fait, en mettant ce ballonnet à cet endroit, ça va entraîner l'apparition de contractions. En fait. Et donc, ça va débuter le travail.
On le gonfle beaucoup plus haut que typiquement les ballonnets qu'on utilise
pas au même endroit,
pour préparer le périnée, en fait.
Oui, ah oui, tout à fait. Oui. C'est plus haut. Oui, tout à fait. Et ça va permettre une stimulation un peu plus naturelle, entre guillemets. Et l'avantage de ça, même si le travail va être plus long, hein, on sait que quand on déclenche, c'est un petit peu plus long.
Combien de temps, du coup, on parle de combien de temps?
Alors, ça dépend. Je ne peux pas donner de chiffres parce que ça dépend du nombre d'enfants qu'on a eu, ça dépend des femmes. Enfin, c'est assez compliqué, mais globalement.
Oui, donc là, ce n'est pas spécifique à la drépanocytose, c'est juste la condition
tout à fait.
Physiologique.
Et le fait qu'on mette une péridurale très précoce, ça ralentit le travail, ça, on le sait bien. Et ça diminue les contractions, en fait, l'intensité des contractions, ça, on le sait aussi, ça ralentit le travail pour n'importe qui, pareil, pas dans le cas de la drépanocytose. Mais le but de cette péridurale précoce, c'est vraiment la gestion des douleurs optimales pour éviter tout stress chez la patiente et toute apparition de crise vaso-occlusive en postpartum immédiat.
Ce déclenchement, à partir de quel moment on commence à l'envisager, au bout de combien de semaines?
Alors,
de
grossesse? Ça dépend des patientes, c'est pareil, mais en général, c'est entre 36 et 38 semaines d'aménorrhée qu'on va envisager ce déclenchement, jusqu'à 39 semaines au plus tard.
D'accord, donc 36, on parle justement de prématuré.
Alors effectivement, 36 semaines, comme c'est 37 semaines dans le terme, 36 semaines, on est un petit peu avant le terme, on va dire, donc on rentre dans la prématurité très légère, on va dire, mais on rentre dedans et c'est une prématurité qui va être induite, hein, par les médecins, mais qui ne va en général pas entraîner d'hospitalisation beaucoup plus longue pour le bébé, parce qu'on sait qu'à 36 semaines, en général, il est capable de téter et son organisme est suffisamment mature pour avoir une vie extra-utérine normale.
Sur cette prématurité induite, on est sur quel pourcentage en fait de mamans qui seront concernées?
Alors, on ne sait pas très bien. Là, on a analysé récemment, on sait qu'il y en a beaucoup, mais un chiffre exact, je ne pourrais pas vous le donner. Récemment, on a repris le registre français sur 5 ans et on a pu mettre en évidence qu'il y avait 60 à 70% de prématurité induite chez les patients drépanocytaires sévères. On est aux environs de 40-50% pour le reste de prématurité en global, mais avec une majorité de prématurité légère, c'est-à-dire entre 34 et 37 semaines et beaucoup de 36-37 semaines. Donc, avec une morbidité, donc, c'est-à-dire un impact pour le bébé qui va rester faible, même s'il n'est pas anodin, bien sûr. Et donc, vous dire quelle est la part de prématurité due à la pré-éclampsie ou à une cholestase gravidique ou à une crise vaso-occlusive ou à une infection urinaire par rapport à celle induite par les docteurs, malheureusement, ce n'est pas codé, en fait. C'est parce que c'est des études de registre et donc, ce n'est pas séparé. Donc, on ne peut pas vraiment l'extrapoler, exactement. Après, nous, dans notre pratique quotidienne, je vais dire que globalement, il y a moitié-moitié à peu près. C'est-à-dire la moitié qui vont être induites par nous parce qu'on va dire bah, le bébé est petit, il y a un peu de pré-éclampsie, il y a la cholestase gravidique, il y a beaucoup de crises vaso-occlusives. Donc, on déclenche l'accouchement à 36 semaines, on fait la césarienne à 36 semaines. Et l'autre moitié qui va être liée aux complications des césariennes en urgence ou un déclenchement plus en urgence.
Comment les mamans s'en remettent ? Elles se remettent bien parce que finalement, il y a une drépanocytose. C'est comment est-ce qu'il faut l'appréhender, cette césarienne, ou finalement, on s'en remet?
Alors moi, je trouve qu'on s'en remet bien, hein, globalement. Après, c'est vrai que c'est plus long hein, que pour s'en remettre que l'accouchement. Il y a une hospitalisation plus longue, hein, qui est plutôt de l'ordre d'une semaine, alors que c'est 3-4 jours quand on fait un accouchement voie basse standard. On fait une anticoagulation préventive plus longue aussi pour les patientes drépanocytaires. Hein. Elles vont continuer 6 semaines les injections après l'accouchement par césarienne parce qu'il y a plus de risque de caillots dans les veines, de phlébite ou d'embolie pulmonaire. Mais après, sur le plan général, le temps de cicatrisation est globalement le même. La reprise de la marche, des activités vont être assez similaires à la population générale. Je trouve qu'on s'en remet plutôt bien. Après, on a plus de cicatrices kéloïdes. Les cicatrices kéloïdes, c'est des cicatrices qui vont se faire de manière un peu exagérée, c'est-à-dire des cicatrices qui ont tendance à gonfler. Et ça, en fait, ce n'est pas tellement lié à la drépanocytose, c'est plus lié à la peau noire et antillaise. Il y a plus de cicatrices kéloïdes dans cette population, on ne sait pas très bien pourquoi. Et donc, c'est des choses qu'il faut bien anticiper quand on est drépanocytologue et obstétricien, bien vérifier qu'il n'y ait pas ce souci pour les patientes pour pouvoir le prendre en charge avec des traitements locaux si besoin.
Ce bébé donc, qui arrive, il y a souvent la grande question de l'allaitement. Alors, pourquoi je dis grande question ? Parce que l'allaitement n'est pas compatible typiquement avec l'hydroxyurée. Quels sont les conseils en fait, qu'on va donner à la maman ?
Alors, on dit, je vais juste reprendre quelque chose qui est intéressant, c'est que l'hydroxyurée, c'est vrai qu'on interdit l'allaitement, mais que finalement, il y a eu des études qui montraient que ça passait très peu dans le lait maternel. Alors, de là à dire qu'il faut le donner, parce qu'on ne sait pas l'impact de ce petit pourcentage pour le bébé, donc je ne dis pas qu'il faut allaiter avec l'hydroxyurée, mais en tout cas, c'est des choses qui vont être amenées peut-être à changer, parce qu'il y a une étude qui est en cours, hein, qui est menée par Russell Ware, qui est le pape de la drépanocytose aux États-Unis, où justement, ils ont fait ces études, et je pense que ça va être intéressant dans les années à venir de revoir les résultats pour savoir si pour certains patients, et avec les précautions, si jamais ça a bien montré que c'était sécuritaire pour l'enfant, peut-être qu'on sera amené à remettre en place l'hydroxyurée plus tôt qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on fait. Donc on va le reprendre une fois que la patiente n'allait plus. Ce qui va nous amener parfois de discuter avec la patiente de la durée d'allaitement en amont. Alors chez les patientes qui sont de toute façon très symptomatiques avec beaucoup de crises, l'allaitement fatigue. Et quand la fin de grossesse a été compliquée, l'allaitement en général est souvent compliqué aussi parce que à cause des traitements antalgiques, la patiente va être obligée parfois de jeter son lait, elle va pas pouvoir donner son lait à cause des traitements qu'elle prend. Et donc ça va parfois très vite devenir compliqué. Donc ces patientes-là, maintenant, on arrive à les repérer, on va déjà les informer que dans leur cas, un mois au maximum nous semble le plus raisonnable pour elles, principalement parce que malheureusement, ça veut dire moins de bonne prise en charge antalgique et un risque d'aggravation de la maladie et d'hospitalisation avec éloignement par rapport à son bébé aussi. Les patientes vraiment très sévères et qu'on a du mal à stabiliser, on leur dit un mois maximum. Pour les autres patientes pour lesquelles on les a passées sous programme transfusionnel, et qu'il n'y a pas de problème transfusionnel chez ces patientes, on va laisser un peu plus de marge. Et parfois, j'ai des patientes qui vont allaiter 3, 6, 9 mois avant de reprendre le traitement par hydroxyurée. Et ensuite, on va faire un espacement progressif des transfusions avant l'arrêt, en général 3 mois après la reprise du traitement. Et pour les patientes qui n'avaient pas ce traitement, il n'y a pas de problématique d'allaitement. On peut allaiter sans problème avec cette réserve, donc des antalgiques et parfois d'autres médicaments qui peuvent être pris pour la tension ou pour le rein.
Et là, la maman, elle va rentrer dans une phase dans sa vie de maman avec une drépanocytose plus un enfant donc, qui est une charge supplémentaire à gérer. Quels sont les conseils en fait, que vous donnez à ces mamans-là ? Parce qu'on sait que finalement, un nouveau-né, ce sont des nuits incomplètes, etc. Comment les aider au mieux pour ne pas les retrouver aux urgences ?
Alors déjà, c'est en ayant bien préparé l'accouchement, parce que du coup, le postpartum se passe mieux aussi. Du coup, grâce au déclenchement, il y a quand même peu de crises après. Donc ça, c'est une première phase. bien se renseigner avant sur savoir est-ce que le papa est présent, sensibiliser le papa à ça aussi, et bien prévenir les patientes qu'effectivement, allaiter, c'est bien, mais qu'il ne faut pas que ce soit au détriment de sa propre santé. Et si on voit que ça devient une problématique avec des crises à répétition, une grande fatigue, il faut savoir être là et rassurer la maman en disant, écoutez, vous avez essayé, c'est compliqué pour vous, c'est très bien ce que vous avez fait, mais ne vous inquiétez pas. Le lait qu'on retrouve aujourd'hui, le lait des biberons, il est très bon aussi pour le bébé et on grandit très bien et la relation avec votre enfant se fera tout aussi bien, avec parfois un bénéfice pour vous, avec moins de fatigue et la possibilité du papa de pouvoir vous relayer. Et c'est vrai que souvent, les patientes qui sont très fatiguées, elles le font assez facilement si on en a parlé en amont. Et donc, le papa va pouvoir avoir vraiment un rôle d'aide pour éviter les crises chez les patientes et permettre des repos. Ensuite, parfois, on l'anticipe avec certaines patientes avec la venue des grands-mères qui viennent aider leur... Alors, c'est souvent les grands-mères, hein. Il y a sûrement des grands-pères, mais c'est vrai que j'ai souvent des grands-mères qui viennent aider leurs filles, qui vont pouvoir les épauler et leur permettre de se reposer dans la journée. Et les choses que je fais aussi, c'est que je... Alors, ça peut être un peu plus tardif, mais c'est la crèche, en fait. Parfois, j'ai des mamans qui ne travaillent pas, mais pour autant, il faut les aider à obtenir des crèches parce que ça leur permet, elles, de se reposer et ensuite de pouvoir retrouver une activité professionnelle qu'elles avaient avant ou pas. Parce que c'est très bien d'être maman et c'est merveilleux, mais parfois, on a d'autres envies aussi plus personnelles. Et donc, c'est vrai que faire des certificats médicaux pour aider à l'intégration des enfants à la crèche quand les mamans en ont besoin, parce qu'elles ont besoin de repos dans la journée, c'est aussi notre rôle en particulier pour les mères isolées qui gèrent à 100% leurs enfants. Et donc ça, c'est ce qu'on fait. Alors une fois que c'est possible, parce que les crèches ne prennent pas les enfants trop petits, mais au-delà, à partir de 3 mois globalement. Et ça, c'est vrai que les médecins aussi de ces femmes ont un rôle à jouer pour ça.
Écoutez, docteur Laure-Joseph, je vous remercie pour cet entretien. On a, je pense, évoqué tous les sujets clés de la drépanocytose et de la grossesse. Et surtout, le message à emporter pour les warriors qui nous écoutent, c'est la grossesse, c'est possible. Seulement, ça s'anticipe, ça se prépare et surtout, il faut aller dans un centre expert.
Tout à fait. Merci beaucoup pour cette interview.
À très bientôt.
Au revoir.
Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous en sortez grandi. Vous l'avez compris, drépanocytose et grossesse, c'est possible. La grossesse est un vrai chamboulement, encore plus lorsqu'on porte une maladie chronique telle que la drépanocytose. Et le maître mot, c'est l'anticipation, car certains traitements qui permettent de contrôler la drépanocytose peuvent ne pas être compatibles avec la grossesse. Il faut les remplacer, il faut les arrêter, il faut trouver d'autres moyens. La drépanocytose augmente le risque de prééclampsie. Les complications de la drépanocytose poussent vers un déclenchement de l'accouchement, vers un accouchement souvent par césarienne et souvent prématuré. Et encore une fois, la place du conjoint, qui est capitale dans toutes les grossesses, l'est encore plus pour une patiente drépanocytaire. Le parcours est intense et beaucoup de femmes drépanocytaires l'ont fait grâce à cette prise en charge médicale personnalisée qui est mise en place pour les accompagner. Alors, à toutes les warriors qui sont enceintes ou les warriors qui l'ont déjà été et qui le sont à nouveau, ou qui ne l'ont jamais été et qui envisagent d'être enceintes, je vous envoie pleine de bonnes vibes. Tous les épisodes du podcast Drépalante sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site internet du podcast www.drépalante.com où vous pouvez également nous contacter. Échange transfusionnel, thérapie génique d'endomoelle osseuse, prise en charge de la douleur, rendez-vous dans les prochains épisodes.